3 minutes. C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet ? Nous offrir, vous offrir l'écoute des 3 premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essai, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les 3 premières minutes, la vraie fausse quotidienne de Cause Commune, à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne, ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB+, la radio numérique terrestre.
Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui avec plein de participants sur le plateau réel et distanciel de cette émission, puisque aujourd'hui nous sommes avec Stan. Bonjour Stan.
Bonjour.
Nous sommes avec Glenn.
Bonjour.
Voilà. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Isa.
Salut, salut.
On est avec Eric.
Bonjour.
Moi, c'est Mathieu. Et puis, bien sûr, le plus fidèle au poste, nous avons Stéphane à la régie.
Bonjour.
Voilà. Et bien, cette émission, comme on vient de vous l'expliquer, est là pour que vous nous partagiez aussi vos univers. Nous, on va partager les nôtres. Mais surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions ou de vos univers préférés. Vous pouvez le faire sur Internet en allant sur le chat de l'émission. Sur causecommune.fm dans le chat, onglet le chat, puis le fil les 3 premières minutes, je vais y arriver, ou si vous voulez nous faire entendre votre douce et chaude voix, appelez-nous au standard de l'émission au 09 72 51 55 46. On est là pour vous, 09 72 51 55 46. Et sans attendre, tout de suite et maintenant, je vous propose de commencer fort avec Au-delà de la pénétration.
On regarde autour de soi, on observe nos vies et on constate que certaines choses nous ont toujours été données comme normales. Personne ne les remet en cause. Elles sont naturelles, ce qui semble être le mot magique pour justifier une paralysie de l'esprit. Nos idées sont rangées sur des étagères, elles font partie du décor, on n'y prête pas vraiment attention et pourtant certaines nous oppressent. Mais comme nous sommes bien éduqués à ne pas être libres, nous ne remarquons pas ce poids sur nos épaules qui nous entrave. Et si nous écartions ces idées, en raison de la douleur qu'elles infligent parfois, mais aussi par simple goût pour la désobéissance, par pure joie et attirance pour l'aventure. C'est un bonheur de déranger le monde, ça soulève de la poussière et ça fait trembler le sol, on peut ensuite amorcer des danses. Tout commence par ce qui ressemble à une bonne nouvelle. Nous héritons de la sexualité, comme nous héritons d'une maison en béton armé. C'est une aubaine, nous n'allons pas refuser ce cadeau, nous nous y glissons, bien contents, ça semble solide, bien rassurés aussi de vivre là où nos parents et nos ancêtres vivaient. Nous reprenons leurs gestes, nous habitons leurs positions et leurs actions. C'est une manière de continuer à tisser un lien et à être avec eux. Ces gestes nous sont précieux, nous avons reçu, nous poursuivons un mouvement immémorial. De temps en temps, nous apportons des variations à la norme sexuelle, de nouvelles positions suggérées par les livres, les journaux et les films, par nos camarades. Mais au final, c'est comme si nous avions simplement ajouté une extension à la maison héritée de nos parents. L'aventure piétine, rien ne change vraiment, les murs en béton sont toujours là. Malgré les titres des magazines et des sites internet, rien de nouveau sous le soleil. Troublante particularité du sexe, nous faisons mine de croire à la subversion, nous prenons des airs amusés et excités, mais le conservatisme règne. Nous répétons ce dont nous avons hérité, sagement, nous reproduisons les mêmes chorégraphies. La sexualité a cet étrange pouvoir de donner une apparence provocante et branchée au conformisme et à l'obéissance aux normes sociales les plus éculées et coercitives. La société bruisse de conversations sur le sexe et pourtant, on n'en dit rien de nouveau. Évoquer la sexualité hétérosexuelle en dehors des clichés est rare et compliqué. Ainsi, la pénétration règne en maître. Elle passe pour naturelle. Personne ne la voit comme socialement construite. Après tout, les animaux se pénètrent, les mâles pénètrent les femelles, les mâles pénètrent les mâles. C'est la marche du monde. Plaisir et reproduction nous y incitent, la nature et la culture nous y invitent. Nous faisons aussi pénétrer des aliments dans notre bouche. Le corps est donc bien ce lieu où nous faisons entrer des choses et dont d'autres choses sortent. Pourquoi remettrait-on en cause cette circulation, ce statut d'échangeur autoroutier de notre anatomie ? Il y a une verge, il y a un vagin, l'être humain est logique, il décide de les emboîter. Il voit un clou, il tape dessus avec un marteau. Si les humains ont découvert que malgré leurs jambes, ils peuvent s'asseoir et méditer, qu'ils ont donc la capacité de ne pas marcher, ils ont en revanche du mal à voir qu'en dépit de tout l'attirail disponible pour la pénétration, ils peuvent ne pas pénétrer et même retirer du plaisir et de la pensée.
C'était les trois premières minutes d'Au-delà de la pénétration par Martin Page. Merci Eric pour cette première lecture et bon appétit à nos auditeurs. Alors, pour commencer, peut-être un petit tour de réaction, Isa.
Oh, oh j'ai...
Bonjour.
Bisous. Ah, je dis non, mais en fait, trop envie de dire plein de choses et encore besoin un peu de recul parce que j'ai... beaucoup de choses qui se sont télescopées à l'écoute de ta lecture, Eric, sur lucidité, enfin le comme quoi la lucidité, le chemin vers la lucidité, c'est l'aventure au-delà d'être de la liberté. Ça m'a vachement parlé. Et puis ouais, ce conformisme sexuel, la façon dont on hérite de tout ça, alors qu'on a on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'on n'arrête pas de parler de sexualité. Et bah ouais, ça m'évoque plein de choses, d'autant qu'il y a quelques années, j'avais tenté d'organiser des discussions autour de la sexualité. Et de façon très naïve, j'avais envoyé à toute la mailing list de ma boîte, de ma messagerie, un gentil message en disant « j'aimerais bien parler sexualité, de la place de la sexualité dans votre vie, dans la société. » Le but étant pas d'échanger des choses intimes, mais juste, mettons ça sur la table, qui est un vrai enjeu social. Et je n'y avais eu que deux réponses sur peut-être 300 mails envoyés. Et péniblement, une personne et demie qui s'était pointée le jour J du rendez-vous. Et je trouve que ce retour donc, scientifique, hautement académiquement avéré, montrait effectivement le distinguo entre ce qu'on projette de la sexualité et finalement la difficulté à faire bouger les choses... dessus, en tout cas rien qu'à l'évoquer de façon peut-être je sais pas, vraiment vraiment intime, personnelle et en même temps sociale quoi, enfin voilà tout ce que notamment ce que m'a évoqué la lecture d'Eric.
Déjà pas mal en première réaction. Alors après cette présentation construite et documentée, Glenn, une réaction?
Non mais du coup je me demande si les gens sont pas venus parce qu'ils savaient pas de quoi on parlait ou peut-être qu'ils avaient rien à... mais c'est vrai que finalement c'est un sujet qui sur lequel on est assez pauvre. Moi je repense à, ça m'a fait penser immédiatement au dernier bouquin de Mona Chollet qui s'appelle Réinventer l'amour et qui parle justement de comment est-ce que nos imaginaires sur ces sujets qui sont construits par notre éducation. Alors désolé, ça part directement dans les trucs techniques analytiques, mais ce que tu as lu Eric, directement parler de la paralysie, de la culture qui forge en fait notre imaginaire. Et oui, je pense qu'on retrouve ça partout. Et donc, alors moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on apprend des choses Est-ce que tu ressors en capacité de nouvelles choses? Est-ce que ça a développé ton imaginaire? Qu'est-ce que ça t'a apporté ce livre?
Ah là là, allez vas-y Eric.
Alors, t'es en plein dans le sujet, c'est une ode à l'imagination ce bouquin. C'est une ode à l'imagination à travers l'amour. Comme un acte créatif à travers le faire, l'amour en fait, aussi comme un acte de communication, bien au-delà du plaisir, bien au-delà de tout ça. Mais je vais peut-être vous laisser réagir.
Ouais, tout à fait, parce que là on était en train de déroger à notre sacro-sainte règle de d'abord laisser réagir ceux qui découvrent le texte. Et vous n'êtes pas avec moi en studio, mais je l'ai vu froncer des sourcils, sourire, faire toutes les expressions possibles et imaginables du visage. Stan, que se passe-t-il?
Oui. je sais pas, j'ai l'impression que... Alors peut-être que c'est parce que j'ai un rapport à la littérature érotique et à la pensée du sexe disons j'ai lu beaucoup de choses sur le sexe mais oui, là pour l'instant je trouve ça enfonce des portes ouvertes de dire oui, la sexualité est socialement construite, on est héritier de... oui, bah oui effectivement, merci monsieur de le dire et, donc bon, je veux bien laisser le bénéfice du doute, c'est juste une introduction donc peut-être que ça va quelque part, mais là pour l'instant ça enfonce des portes ouvertes. Et ce qui m'énerve absolument dans ce genre de d'écrit, c'est nous machin, on machin, et sans jamais définir qui est ce nous, qui est ce on. Justement, tu parlais de Mona Chollet qui pour le coup dit clairement à partir de où elle parle, et je trouve ça, moi je trouve ça complètement insupportable, ces gens qui se permettent d'écrire des bouquins en disant nous sans jamais définir quel est ce nous écrit, ni et où, disons, de définir de où eux ils écrivent, eux ou elles. Donc voilà, pour l'instant je trouve ça enfonce des portes ouvertes, et cette non-définition du nous et du on, avec des grandes phases comme ça qui généralisent sur toutes les personnes qui ont accès à la sexualité, me font freiner des quatre membres.
Quant à moi, j'étais très surpris de que toute la lecture qui est proposée de la sexualité se fasse au nom de la liberté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a à être aussi amoureux, passionné de la liberté? Je pensais, un jour, dans mes errances numériques, je suis tombé sur le site de Julian Beck, qui a consacré sa vie à la danse improvisée, donc qui fait partie des gens pour qui la liberté est importante, puisque l'idée de la danse improvisée, c'est une danse libre. Et il avait des notes chorégraphiques sous forme de poèmes dans lesquelles il disait, mais de toute façon, la liberté est survendue. Et en plus, ce mec est américain d'origine, qui est un pays qui est extrêmement amoureux de la liberté, en tout cas de la liberté d'expression. Et ça, du coup, d'avoir ce témoignage-là m'a vachement interrogé. Je me suis dit, oui, au fond, on dit tout le temps liberté, liberté chérie, mais je sais pas si on le dit tout le temps, mais du coup, ça m'interroge. Mais alors, Eric, revenons-en à toi. Quel est ce livre? Comment es-tu tombé dessus? Et alors, c'est quoi cette lecture?
Alors, moi, j'adore vos réactions, parce que c'est... vous êtes en plein dans le sujet. C'est pas un livre qui, moi, m'a appris grand-chose. Au sens de... tu sais, ça fait partie de ces livres pour les gens qui sont déjà convaincus d'un truc. Par exemple, ma compagne me dit, c'est un bouquin notamment sur le féminisme. Parce qu'en fait, au-delà de la pénétration, ça n'a pas parlé effectivement que de la pénétration, ça ouvre sur tellement de choses. Et ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, c'est comme ces livres sur le féminisme, mais qui ne vont pas convaincre les antiféministes, mais qui vont te faire du bien, parce que putain, ça fait du bien d'entendre une parole comme ça. Ça fait du bien d'avoir un contre-pied à tous ces modèles qu'on te montre tout le temps. Et c'est un livre où tu te dis, ah, il n'y a pas que moi qui pense comme ça et tout, il y a une multiplicité. Et là encore, on est victime des trois premières minutes, parce que c'est une ouverture. Bien sûr, il dit « on », mais attention, il va dire « nous ». C'est un « nous » qui ouvre en disant « on a tous ». Il ne parle pas tout à fait de sexualité au début. Hein. Il va dire « on a tous des sortes de réflexes hérités ». De notre éducation, de notre société, etc. On a tous ces réflexes. Voilà, la bite, c'est central, c'est au centre. Pénétration, ça semble naturel, on y va. Eh ben non. Et je pense que si c'est un nous collectif, c'est parce que c'est une psychologie collective de se dire, voilà, on a tous comme ça, forcément. Ou après, je vous connais pas, mais voilà, ces espèces de réflexes.
Pas moi,
de dire,
pas,
on mais... fait comme ça, pas forcément la sexualité, mais. Il y a ça au centre. Pour certaines personnes, ça va être l'argent, ça va être, j'en sais rien. Et si on ouvrait sur cette liberté d'imagination à côté, et si on réinventait des choses, voilà. Mais avant de parler du livre lui-même, moi, je voudrais parler de la rencontre avec ce bouquin, parce qu'à l'origine, je l'avais acheté pour ma compagne, et c'était une aventure. La lecture en elle-même, c'était une aventure. Comme beaucoup de livres que j'ai achetés, c'est moi qui ai commencé à le lire. Faut pas faire, mais voilà, comme ça. Et je fais une petite parenthèse, je l'ai lu dans le lit, à côté d'elle. C'est super important, les endroits où on lit un livre. Mmh. On en reparlera peut-être un jour. Moi, je lis beaucoup dans mon bain. Ça, c'est pour toutes les lectures, les livres qu'on a besoin d'infuser. Il y a des livres dans les idéaux pour le métro, pour les chiottes, pour le train, tout ça. Et au-delà de la pénétration, c'est un livre idéal pour le lit, bien sûr. Les livres pour le lit, il y en a deux pour moi. Il y a le livre quand je veux m'endormir très vite. Donc là, plus c'est chiant, évidemment, mieux ça marche. Et puis le livre pour, je tente le coup jusqu'à 3h du mat parce que je veux juste connaître le chapitre suivant du chapitre suivant. Et là, on s'en sort pas. Au-delà de la pénétration, c'est une troisième catégorie, un peu à part, une petite niche, qui est le livre à lire à deux. Au lit. Et parce que, donc elle s'est collée contre moi, genre tu me lis un livre mais tu le lis en premier, pas question. Elle lit plus vite que moi, donc c'est moi qui tourne les pages, évidemment, à chaque fois du coup. Et donc c'est un livre qu'on a vécu ensemble dans un plan à trois quelque part. Merci Martin Page. Et c'est un livre couette. Ce qu'il faut voir dans ce bouquin, c'est que c'est pas un livre, c'est un livre intello, ok, mais c'est un livre, il y a un style, il y a une malice, il y a une douceur là-dedans, c'est tendre, c'est doux, c'est beau, c'est incroyable. C'est l'auteur le masculin le plus féminin et féministe que je connaisse, Martin Page. C'est humain, c'est humaniste, enfin, voilà. Et donc, on était enveloppés là-dedans, et ça a été un pur bonheur, voilà. Ce qui s'est passé après, je ne vous le raconte pas, il n'y a pas eu pénétration, voilà, mais c'était cool, c'était génial. Et donc, on va quand même revenir au thème, parce que voilà, chacun aura son aventure avec ce bouquin. C'est pas un contre la pénétration, c'est un au-delà de la pénétration. Bien sûr, je pense qu'on sera plus ou moins d'accord pour se dire que les préliminaires... ça peut ne pas être qu'un amuse-gueule, ça peut être un buffet à volonté, et qu'il y a bien sûr d'autres moyens de jouissance que pénétrer ou être pénétré. Il y a tellement de gammes possibles, mais au-delà de ça, ça réinterroge notre rapport au plaisir. Parce que moi, on m'a éduqué, effectivement, c'est une maison qu'on hérite. Oui, j'ai été éduqué en disant t'es un garçon. Ton but, c'est de marquer un but, de faire jouer ta partenaire avant d'éjaculer. Sinon, c'est la honte, quoi. Et donc, du coup, on a une responsabilité. Je suis désolé de le dire. Oui, j'ai été éduqué là-dedans, avec cette responsabilité qui est un peu partagée. Mais quand même, il y a une tension. Il y a cette tension-là dans l'érection masculine de devoir assurer. Voilà. Comme dirait Spider-Man, un grand sexe implique de grandes responsabilités. Donc, voilà. Alors, comme dirait ma compagne... Alors, moi, elle m'a dit, quand je lui ai sorti ça, elle m'a dit, c'est peut-être parce que tu as une petite bite que tu as dû développer d'autres super pouvoirs. Elle a sans doute raison. Mais quand on se dit que le plaisir, c'est pas un but, mais un ingrédient, et que, comme Martin Page, on va réinventer quelque part, au-delà du plaisir, au-delà de la pénétration, au-delà de tout ça, on réinvente une forme de relation, de communication, de communion, faire l'amour, il y a quand même le mot amour dedans. Et donc, c'est cool, c'est un livre qui, ça fait du bien de se dire, on oublie le côté pénétrant, pénétré, dominant, soumis, tout ça, ça désamorce tellement de trucs, donc c'est super cool. Je suis paumé dans ce que je voulais vous dire. Génial aussi, par rapport au fait de dire nous, en fait ce qui est super c'est que le bouquin il fait 40 pages. C'est un livre assez court au début, où il fait feu comme ça. En fait, c'est beau aussi pour la langue, quoi. C'est une langue, Martin Page, là, c'est un kiff de lire des livres intello, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, c'est émotionnellement fort. Et après, il y a autant de pages de témoignages, très courts, qu'il a recueillis. Lui, il a eu des retours de mail. Évidemment, pas que hétéro, enfin, voilà. Et tous les rapports positifs, négatifs, plein de témoignages. Et ça aussi, c'est kiffant de lire tout ça sur la pénétration, sur notre rapport à la sexualité. Et oui, le social, il est relié à l'intime. Oui, et à cette notion de liberté, à ces notions d'apprentissage. Et voilà. Je me suis complètement égaré en chemin, c'est pas grave. Mais voilà, au final, au-delà de la pénétration, c'est un livre sur l'amour et l'imagination. Et c'est une invitation à tellement de choses. On n'apprend pas grand-chose, mais c'est moi, ça m'a transcendé. Voilà.
Mais quel enthousiasme, voilà, qui fait du bien. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous êtes convaincus et que pour votre déjeuner, vous allez vous précipiter pour acheter Au-delà de la pénétration de Martin Page, dont Eric vient de nous faire découvrir les trois premières minutes avec enthousiasme. Merci, Eric. Et du coup, puisqu'on parle de choses importantes, le bien, le mal, tout ça, je vous propose de passer à Dieu me déteste.
Je vous baratine pas, je suis fiable à 100%, je vous jure. Moi, Richard Cazet, alias l'incroyable garçon mourant, je vis bien, en ce moment même, quoique temporairement, dans l'unité de soins palliatifs que je vais vous décrire ici. Au troisième étage de l'hôpital Hilltop, à Hudson, dans le grand état de New York. Alors, il faut que je vous raconte un truc, pour planter le décor. Imaginez un peu ça. Pile en face de l'ascenseur qui crache des passagers dans notre petit service de mourants, il y a une harpiste. Je plaisante pas. Juste là, dans le hall, tous les jours de la semaine, cette vieille dame aux cheveux blancs, avec ses longues jupes bizarres, s'assied derrière cet énorme instrument qui sonne faux, et elle joue jusqu'à se mettre le cœur en charpie, ou les doigts, plutôt. Et sa harpe balance toutes ces notes guillerettes et débiles qui vous serrent la gorge. Est-ce que c'est pas abusé, ça? Un rien prématuré? On n'est pas encore morts, les gars. Parfois, ça peut devenir assez marrant, cette histoire de harpe. Les bons jours, je reste campé dans mon fauteuil roulant, à regarder les gens sortir de l'ascenseur. Ils viennent rendre visite à un proche de l'article de la mort, ils déboulent dans notre petit hall d'accueil, et là, cette musique les assaille. Il faut les voir trébucher et vaciller, blêmir. L'espace d'un instant, ils doivent se dire qu'ils ont débarqué au ciel sans passer par la case cimetière. En général, ils ont trois pas de recul, il y en a même qui se jettent sur le bouton de l'ascenseur qui essaie désespérément de rouvrir les portes avec les ongles tout plutôt que rester là. Pas difficile de deviner ce qu'ils pensent. C'est pas moi qui suis en train de mourir, pas vrai? Qu'est-ce que je fous là? Comment j'atterris au pays de la harpe? Ça leur fiche un peu une peur bleue et je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Les infirmiers prétendent que la harpe, c'est apaisant, que c'est bon pour le moral des patients. Ok, super. Peut-être que pour 95% des patients, ceux qui sont hyper vieux, genre plus de 60 ans, ça fait du bien. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent à moi? Ou à Sylvie? Sylvie et moi, on est des gosses, je vous rappelle. On est des ados. Et nous aussi, on est en train de crever. Et nos droits à nous, alors? Bon, il faut reconnaître que c'est brutal. D'autant que ces infirmières et ces infirmiers sont vraiment cool. Et quand je leur fais ce coup-là, les larmes qui leur montent aux yeux. Parce que personne, mais vraiment personne, n'aime l'idée que les gamins puissent mourir. Mais c'est précisément ce qui nous arrive. Alors je vais vous dire, faut vous y faire. On finit tous par mourir, les mecs, c'est comme ça. Ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Être mourant, au final, c'est plutôt barbant. Ce qui, en revanche, est intéressant, c'est de vivre ici. Bien plus que je ne l'aurais imaginé, le jour où on m'a traîné entre ces murs, tandis que je jurais et je me débattais de toutes mes forces. Parce qu'il se passe des choses complètement dingues ici. C'est comme ce qu'on a fait, Sylvie et moi, la veille d'Halloween. Un grand classique. Je vous explique. Ma grand-mère, qui n'est pas aussi vieille que vous pourriez le penser, parce que les femmes de ma famille font vraiment des gosses jeunes, souvent par accident, m'a raconté un jour que quand elle était petite, dans le New Jersey, il y avait cette soirée incroyable, la veille d'Halloween, qu'on appelait la nuit du diable. Ce soir-là, les parents mettaient littéralement leurs gosses dehors pour qu'ils se lâchent. Mamie m'a raconté que chez elle, la seule règle à respecter pour la nuit du diable, c'était d'être rentrée pour minuit, même s'il y avait un cours le lendemain. Imaginez un peu le nombre de mauvais coups super drôles qu'on a le temps de faire entre le coucher du soleil et minuit. En voici quelques-uns, tirés de sa liste personnelle. Traverser les jardins des gens en courant et sauter par-dessus les barrières, le tout en hurlant comme des possédés, balancer des œufs sur tout ce qui bouge ou ne bouge pas, emballer de la crotte de chien.
Bah vas-y, finis ta phrase quand même.
Ah non, la phrase est très longue.
Bah alors non, tu la finis pas.
C'est bien aussi de finir sur emballer une crotte de chien.
Oui, hein. Voilà, voilà. Et bien donc, c'était les trois premières minutes de Dieu me déteste de Hollis Shemon, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Eh bien, Eric, une réaction?
Alors moi, quand on me parle d'enfants au seuil de la mort, il faut que ce soit malin. J'attends un livre malin parce que sinon je vais avoir, j'ai tous mes mécanismes de défense qui tu sais, comme dans Oscar et la Dame Rose là, d'Eric Emmanuel Schmitt, je sais pas si vous l'avez lu, où d'un seul coup, moi je suis pas rentré dedans parce que c'est, même si c'est bien fait, mais il y a ah ouais, un enfant qui va mourir, etc. On veut me prendre le cœur et quelque part j'ai pas envie de me faire avoir. Donc ma question c'est, est-ce que jusqu'où ça va, est-ce que c'est bien foutu? Parce que là, y a de l'enjeu, quoi, tout de suite. Mais cool, enfin, le côté harpe, le côté... ouais, c'est étonnant. D'un seul coup, on est dans un hiver un peu fou, décalé. Enfin, ça me plaît bien.
Isa, une réaction?
Bien... Ouais, moi, j'ai bien aimé le côté trash, décalé aussi. Ce sujet qu'on n'évoque pas, quoi, qui est la fin de vie, et effectivement qu'on projette sur des personnes plutôt âgées, mais qui malheureusement arrivent à tous les âges. Et non, je trouve ça paradoxalement assez rafraîchissant d'avoir la parole et ben, d'un jeune mourant. Ouais, je suis En fait, moi, ça me plombe pas du tout. Ça m'excite vachement de me dire, bah oui, voilà, y a des choses qui sont tabous. Et c'est chiant, enfin, c'est pénible que ça soit tabou, et il y a plein d'inconforts dans la vie qu'on évite, et moi je suis trop contente d'aller joyeusement vers cet inconfort.
Stan ?
Oui, ben, un peu comme Lisa, moi je trouve ça très bien déjà comme sujet, si on peut parler de sujet, et puis surtout je trouve ça plutôt bien écrit, avec de l'humour, avec cette harpe, qui ça m'a fait beaucoup rire. Non, je trouve ça... Je trouve justement il y a une distance pour faire que ce soit pas plombant pour l'instant, même si j'avoue j'étais un peu perdu là sur la fin des trois premières minutes avec le détour par Halloween, mais c'est pas grave.
Ouais, moi j'attends de voir un peu où ça va. Il y a un truc où je me laisse très facilement embarquer. J'ai adoré ta lecture, Glenn. Et puis, je sais pas, enfin, quand c'est drôle, moi ça me plaît en général. Ensuite, je peux pas dire que pour l'instant je sois ni bouleversé, ni dans l'émotion, ni dans les réflexions. Donc, j'attends de voir où ça va. Mais du coup, Glenn, justement, où ça va et quel est ce livre ?
Alors c'est un livre qu'on m'a fait lire un peu par hasard et que j'ai adoré et qui m'a beaucoup touché, mais pas pendant la lecture, plutôt après. Parce que, alors on se raconte l'histoire d'un adolescent qui, comme tous les adolescents, va penser aux filles, va enfreindre les règles, va penser à ses petits soucis du quotidien. Et en fait, finalement, c'est un bouquin dans lequel la maladie est là, mais qu'elle est comme un... personnage au second plan, quand son corps commence à fatiguer et que ça lui rappelle un peu sa condition. Et donc on retrouve d'autres personnages, notamment Sylvie, qui est aussi une ado, et bon, il va se passer des trucs, j'en dis pas plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la reprise de conscience que chacun des moments compte. Et c'est ça qui va transparaître à travers le livre. Ça va aussi mettre en valeur, évidemment, tout le personnel hospitalier, les infirmières, etc., qui, en général, ne sont pas mises en valeur. Et là, on comprend très, très bien leur rôle et leur importance, surtout en ce moment. Oui, c'est un bouquin qui est trash, qui est décalé, qui est fou, mais parce que je pense que toutes les autres façons d'en parler ne donnent pas envie d'y aller, ne donnent pas envie de s'y intéresser. Et l'auteur fait très bien ça, et oui, on va joyeusement vers la mort. Bon, en fait, on y va tous de toute façon. Donc je vous le recommande, c'est un très beau livre qui se lit très bien, il n'est pas très épais. Donc, lisez-le. Voilà.
Merci Glenn. Isa, du coup, est-ce que tu vas lire ce livre ?
En fait, moi, je suis déjà satisfaite de savoir que ça existe, qu'il a été écrit et qu'il peut être lu. Déjà, ça va, ça me fait ma journée. Et
c'est un peu le principe de cette émission en même temps. Hein.
Je ne sais pas si je le lirai, mais voilà, d'avoir écouté effectivement la chouette lecture de Glenn, hyper enjoué, et de revenir à ça, on est... Avant tout, il y a de la vie, des vivants, des humains, des histoires à raconter, quelles que soient nos conditions, et de s'émanciper de ça. Il n'est pas ce pauvre jeune malade qui va mourir. Il est un humain qui a plein de choses à vivre et qui les vit avec cette conscience que, bien sûr, sa mort est plus proche que pour un autre. Mais ça changerait, en fait, qu'il ait plein de choses à dire et à raconter. Et c'est ça qui, moi, me touche beaucoup, quoi. Et qu'on part un peu, de façon inconsciente, du principe que certaines conditions font que on a moins sa place dans le monde des vivants et on est moins contributeur. Et c'est pas vrai, quoi. C'est ça que ça me rappelle.
Bien sûr. Stan ? Toi, tu vas lire ce livre ?
Comment dire ? Disons que je n'irai pas le chercher volontairement, mais s'il était sous mes yeux un dimanche après-midi pluvieux, je le lirais certainement avec... peut-être même avec plaisir, ouais.
C'est un bouquin qui est très drôle. C'est, malgré le contexte, c'est vraiment un très bon moment.
Et j'ai une question parce que on nous a vendu juste avant un bouquin de 40 pages. Moi, j'aime beaucoup le concept. Il fait combien de pages ce bouquin ?
Là, je l'ai que en version numérique devant moi. C'est pas très épais. Il fait moins du centimètre d'épaisseur.
en version numérique.
Non, en version papier. Alors, je l'ai lu en version papier il y a très longtemps, il y a 4-5 ans, je crois. Et là, je suis retombé dessus récemment. Je me dis, ah ouais, c'est trop ça qu'il faut pour les 3 premières minutes.
Ouais, mais effectivement, moi, je suis d'accord avec Stan. Je pense que si c'est un truc qui se lit vite, je pourrais le lire avec un certain plaisir.
Et ça vient d'où ? Enfin, cette auteure, autrice, vient d'où ? C'est quoi ? C'est qui ? C'est où ?
Alors, je connais pas l'histoire de l'auteur. Mais je peux vous dire qui me l'a recommandé. C'était quelqu'un qui travaillait sur les questions de grand âge et puis qui a fini par travailler à l'Institut National du Cancer. Donc ça restait dans le contexte. Hein, mais c'est l'un des bouquins les plus joyeux qu'on puisse avoir sur ces sujets.
Non, mais on c'est est bien au max. Parce que moi j'étais quand même à la recherche de bouquins drôles et je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup dans ma bibliothèque. Donc je pense qu'on peut mettre une note spéciale, un label. Livre drôle,
c'est vrai.
Je sais pas. Des fois, on en manque hein, quand même.
C'est vrai. Et d'ailleurs, pour un peu de légèreté, je vous propose une petite pause musicale.
N-am știut să te păstrezi, iar acum regretul vine. Îndum zboară iar spre tine. N-am știut să te păstrezi, n-am știut să prețuiesc.
Vous êtes sur Cause Commune, vous êtes à l'émission Les 3 premières minutes. C'était l'heure de la pause musicale que chaque vendredi, le génial Stan Briche, découvreur de talents sur Internet de moins de 3 minutes, vous offre. Et aujourd'hui, vous venez d'entendre, alors je vais essayer de le prononcer bien, hein, Nam Stiut Sate Pastrez, de Ilyuka, je vais essayer de le prononcer bien aussi, Cherbachev, qui est donc un morceau qui nous vient de Roumanie et qui date de 1965. Merci Stan. Alors avant de passer à la prochaine lecture, Stan, quand même, comment fais-tu pour découvrir toutes ces pépites ?
Ah, eh bien, en gros, j'ai deux sources. Il y a beaucoup de musique que j'entends dans des films, en fait, et que je repère dans les films et que je recherche après. Où j'ai comme ça 2-3 personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui se font un plaisir à faire des playlists de trésors un peu étranges ou inattendus. Mmh. Et voilà,
comme
j'ai,
quoi,
j'ai mes sources.
Internet regorge de trésors cachés au-delà de ce que la culture mainstream peut nous proposer.
Absolument.
Eh ben, vous êtes sur l'émission Les Trois Premières Minutes, et si vous nous rejoignez en cours de route, sachez que vous pouvez nous joindre et nous faire partager vous aussi les trois premières minutes de vos univers préférés, ou bien nous exprimer vos réactions sur ce qu'on vous fait découvrir au fur et à mesure de l'émission. N'hésitez pas, vous pouvez nous joindre au 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Et sachez qu'à chaque fois qu'on a des appels, ce qui finalement est assez rare, c'est une véritable petite fête pour nous, et que cette émission est faite pour ça, et que ça nous intéresse pas du tout de rester entre nous. S'il vous plaît, appelez-nous. On est désespérés, on est entre nous, on se fait chier. Allez, appelez-nous. Bisous.
Un peu dur.
C'est dur. Non,
moi, je me fais pas chier. Parle pour bien, toi. Hein.
Et nous, non, c'est pas vrai.
Ah, c'est Jean qui disent nous sans...
sans savoir, sans qu'on sache d'où il parle, de quel Mathieu Huot il parle.
Tout à fait. Je suis prise en flagrant délit de mégalomanie et je tiens à m'excuser devant tout le monde à l'antenne. Sur ce, il est temps d'écouter la valise en carton.
« 20 janvier 1983, la voiture s'arrête devant l'Olympia et je vois pour la première fois mon nom écrit en lettres rouges lumineuses comme des flammes. Qu'est-ce que ce nom fait là ? Il est 4 heures de l'après-midi et c'est l'ultime répétition. Je ne bougerai plus de cette loge où l'ombre des plus grandes vedettes rôde à chaque instant. Ce music hall est hanté comme un château. Mais ce sont les fantômes des plus grandes stars du monde qui s'y promènent. Je n'ai jamais vu tant de fleurs de ma vie, et l'ancienne petite bonne qui sommeille toujours en moi ne peut pas s'empêcher de les ranger et de faire un brin de ménage. Je suis seul un instant et j'ai subitement envie de fuir. Non, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas chanter, pas sourire, pas parler, et pourtant je l'ai voulu cet instant. 5 années seulement se sont écoulées entre les puces et l'Olympia, mais quelle folie! J'essaye une dernière fois la robe noire et le châle doublé de soie rouge. Bien sûr, ce n'est pas le châle tout simple des femmes de mon village natal, mais je l'aime bien et je sais qu'il va m'aider à trouver les expressions justes qui correspondent à mes chansons. Je suis odieuse avec mon entourage. Quoi faire d'autre puisque je ne peux pas fuir ? Fuir au Portugal où mon père m'attend, depuis qu'il est mort je sais qu'il me guide. Et voilà qu'il se lève pour moi ce soir, pour moi. La petite venue d'un village perdu du sud et que tout destiné à rester femme de chambre. Tout, peut-être pas au fond. Je crois au destin, je ne crois pas au hasard. Je suis sûr que quelqu'un là-haut tire les ficelles et que si je suis ici ce soir de janvier 1983 sur cette scène qui fait rêver le monde entier, c'est que tout m'a amené vers cet endroit. Derrière le rideau, c'est à peine si j'ose respirer. J'ai toujours eu le trac, mais ce soir, en écoutant le brouhaha des gens qui s'installent dans la salle, j'ai le sentiment que la terre va s'ouvrir sous mes pas, qu'elle va m'avaler avec ce rideau qui ne tardera plus à s'ouvrir. Tout à coup, l'envie fait place à la terreur, le désir est remplacé par l'angoisse. On sait que dans la salle, ceux qui sont venus sont là parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont envie de vous voir, de vous entendre, mais malgré cela, à ce moment précis où tout va commencer, où les musiciens piaffent d'impatience, eh ben on voudrait tout lâcher et partir à grande enjambée. Je ne peux pas dire que j'ai attendu longtemps cet instant. Tout a été si vite pour moi que je ne peux vraiment pas me plaindre. J'ai eu de la chance, une chance inouïe, et j'en suis consciente. Pourtant, c'est vrai, j'ai toujours rêvé à ces vedettes isolées dans le halo d'une poursuite. Sans trop imaginer qu'un jour, à mon tour, je serais prise entre deux projecteurs, seule malgré les musiciens et face à la fosse au lion qu'est la salle pleine. Je ne saurais jamais oser penser cela. Je n'aurais jamais osé penser cela. Rien ne m'y amenait. Et parce que j'étais plutôt destinée à rester dans le rang des domestiques, on m'a très vite cataloguée comme l'idole des bonnes. Je pense à tout cela dans cette minute qui précède leur grand saut dans le vide. Et je n'en ai pas honte. Je n'en suis pas plus en colère pour autant. Au contraire, je suis très fière du chemin parcouru et très fière de savoir que ce soir, un peu partout dans la salle, il y a toutes celles qui me sont si proches et qu'elles se retrouvent en moi. Tant mieux si grâce à mes chansons, elles ont enfin droit à une petite part de rêve.
Merci Stan. C'était les trois premières minutes de la valise en carton de Linda D'Souza. Alors, Isa, une réaction ?
Eh bien, je suis contente de savoir que c'est Linda D'Souza, parce que je me dis, non mais ça, c'est pas possible que ce soit de la fiction. C'est forcément une histoire biographique et qui est donc cette idole des bonnes. Et j'avoue que j'avais pas entendu, enfin fait attention au titre, La valise en carton. Peut-être que je m'en rappelais plus, pourtant c'est sûr que j'ai déjà entendu le nom de ce livre. Et ouais, j'ai trouvé ça. On va dire que c'est mal écrit. Qu'il y a quand même un côté, en plus de la lecture que tu en as fait, quand même un peu un côté insupportable. qui ne va, joue pas en faveur de Linda de Souza. Mais ouais, non, ça m'a amusé. Mais c'est vrai que j'étais là en train de lutter en disant non, ça ne peut pas être de la fiction, ça ne peut pas être de la fiction, ça ne peut pas être de la fiction.
Eric, une réaction?
Ah bah merci Stan d'avoir ressuscité Linda de Souza, je l'avais oublié, je l'avais remisé dans un placard. Mais oui, mon Dieu, toute mon enfance. Elle n'avait pas fait un livre de recettes de, tu sais, de recettes de grand-mère pour faire des bains de fesses pour.
Je crois
pour
que tu confonds avec Rika Zaraï, mais je suis pas sûr.
Ah t'as raison. Elle a fait au moins des recettes de cuisine, c'est sûr.
Stéphane en régie approuve, c'est bien Rika Zaraï. On a un expert, oui, mesdames et messieurs.
Eh bien, écoute, je confonds Linda de Souza et Rika Zaraï.
Eh bien, moi aussi.
En tout cas, ouais. Et je l'ai vraiment entendu au premier degré. Et je me fais facilement avoir par toutes ces success stories de « Ah, j'étais pauvre et maintenant... » je connais la gloire, la richesse, l'Olympia, tout ça, c'est trop bien. Et moi, j'aime bien, surtout quand tu sais que c'est une histoire vraie. Moi, je suis très bon public sur ces trucs-là.
Et toi, Glenn?
Le fait de savoir que c'est une histoire vraie, déjà, me réintéresse. En vrai, c'est un bouquin qui m'a pas du tout fait adhérer. Enfin, les trois premières minutes, j'étais... Mais... Oh là là, c'est tellement pas le genre d'ambiance ou le genre de personnage dont j'ai envie de savoir la vie. Et en fait, si c'est quelqu'un de réel, en fait déjà c'est plus intéressant. Et après, il y a ce côté qu'on commence à voir poindre dans ce que tu as lu, qui est qu'il y a une sorte de revanche sur quelque chose et dont j'ai envie de savoir plus. Donc oui, je sais pas où ça va. Donc si c'est une histoire réelle, évidemment, je vais aller regarder qui est la personne que je ne connais pas du tout. Du coup, je suis très curieux.
Là, tu révèles que nous avons une grosse différence d'âge. Et que tu es décidément
jeune dans ta tête.
Vraiment le plus jeune, Glenn.
C'est énervant.
Non, c'est juste que je manque de culture.
Non, pas du tout.
Ça ne fait pas partie vraiment de
non, pas du tout. Mais ouais, moi je suis un peu d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a un truc où... moi j'avais le bouquin sous les yeux, donc je voyais bien que c'était Linda de Souza, donc j'avais pas ce suspense-là. Je trouvais ça très mal écrit et ça m'ennuyait un peu. Et en même temps, il y a un truc que je trouve derrière désespérément triste de ce format... ressasser des success stories, devoir justifier son parcours par le fait d'être bonne, et le showbiz là-dedans, enfin la place du showbiz là-dedans qui en fait l'idole des bonnes. Donc on est déjà à l'époque dans une espèce de marketing ciblé, ça c'est la chanteuse pour ceux qui sont en bas de la catégorie sociale. Et je me disais, mais quel témoignage pour Pierre Bourdieu, par exemple. Enfin, qu'est-ce qu'il en penserait de toute cette machine à broyer de la domination sociale? Et je trouve ça d'une tristesse terrible que dès les premières pages, ce soit ça qui ressorte et qu'on puisse pas se parler de personne à personne, quoi. Voilà. Tous ces filtres-là m'attristent, en fait. Mais Stan...
Oui.
Alors, pourquoi ce livre?
Mais ma boîte à livres.
Mais voilà, la réponse à tout est la boîte de troc de livres que j'ai en face de chez moi. Pour les personnes qui suivent cette émission, ça me fournit 95% de mes lectures et qui vont donc de Voltaire à Bourdieu, en passant par Linda de Souza. J'ai un quartier qui est très cosmopolite.
Généreux.
Et généreux. Et donc voilà, du coup j'ai trouvé ce livre-là, et j'avoue que je ne connaissais pas moi non plus Linda de Souza. Le nom me disait vaguement quelque chose, et en fait je me suis rendu compte effectivement que je la confondais avec Rika Zaraï, et que du coup Linda de Souza, je n'avais aucun enfin, j'avais aucun imaginaire, aucune connaissance sur elle. À projeter du coup sur elle. Et bon, j'avoue que ces petites lectures de mémoires, j'ai déjà partagé ici les mémoires de Nadine de Rothschild, de Lynn Renault, de Lio, de Sim. Mon préféré pour l'instant, c'est clairement Sim. Donc voilà, donc j'avoue, j'ai une petite appétence pour ce genre de littérature quand elle est gratuite et devant chez moi, que je lis d'ailleurs aux toilettes principalement, pour revenir sur la question de où on lit les livres.
Oui, c'est vrai, on n'a pas relevé, mais j'aime beaucoup cette question de oui. Où vous lisez les livres.
Et donc voilà, Linda de Souza a accompagné mes passages aux toilettes pendant un moment. Et du coup, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que par rapport à toutes les autres personnes dont j'ai lu les mémoires, comme elle, je n'avais aucun rapport avec elle, j'avais aucun imaginaire pour elle. C'est la première fois que je lisais les mémoires de quelqu'un que je ne connais pas du tout, même en a priori. Et c'est toujours la même mécanique, ce genre de livre, effectivement, c'est toujours « Ah, je viens de tellement loin, et puis je vais tellement loin, c'est grâce à vous, public que j'aime, et j'ai aussi eu de la chance, j'ai pas de talent, mais j'ai de la chance, en gros. » Et voilà, moi c'est le genre de petite lecture que j'aime bien. Et puis oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, les petites success stories. On se dit, oh ben oui, ça marche. Voilà, moi c'est mon petit péché mignon, ce genre de littérature. Donc j'avoue que maintenant, à chaque fois que je passe devant cette fameuse boîte de troc de livres, je me dis, de qui vais-je avoir les mémoires aujourd'hui?
Mais tu sais, toi aussi, Stan, tu peux avoir du succès comme Linda de Souza.
Oh, oui, merci.
Comme Rick Azaray, hein.
Et puis du coup, du coup, c'est rigolo aussi parce que ça a été visiblement un best-seller, ce bouquin, parce que justement, donc elle a écrit ça visiblement au top de sa carrière et ça a été un gros succès en librairie, paraît-il, que justement elle avait une vraie fanbase, quoi, qui est la suivie en concert, acheter ses bouquins et que. Et effectivement, c'était un peu, en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'auto-présente dans le bouquin, la femme, la chanteuse du peuple, quoi, des bonnes, comme elle le dit.
Mmh. Ouais, moi, je trouve ça, enfin, je sais pas, ça m'attriste.
Ah oui, moi aussi, mais en tout cas, ça a été vraiment, visiblement, même un grand succès en librairie.
Mmh. Moi, c'est au-delà de c'est pas que ça m'attriste, c'est que ça véhicule un contre-message en fait. À chaque fois, à chacune de ces success stories, on a l'impression que bah, quand on veut, on peut en fait. Quoi. Bon, ok, il y a un petit peu de chance, mais en fait, toutes ces histoires, elles sont sociologiquement pas du tout représentatives de la réalité. Quoi. Ça donne l'idée que, ah bah si, elle, la pauvre petite bonne qui était prédestinée à un destin. Voilà, de soumise à la société, d'opprimée, tout ça, et ben non, elle a pu s'en sortir, et donc tout le monde peut s'en sortir en fait avec un peu de chance et quand même peut-être un peu de boulot, quoi.
Et alors j'ai une question, moi, parce que il y a ce que j'appelle le syndrome Madonna, c'est-à-dire ces personnes qui passent la moitié de leur vie à vouloir être célèbres et la deuxième moitié de leur vie à pleurer parce qu'elles le sont. Est-ce qu'il y a ça chez Rick Azaray ou pas?
Ah bah écoutez...
Linda Souza de Rick Azaray.
On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, pardon. Je suis désolé.
Eh bien, écoutez, je suis ravi de cette question parce qu'il se trouve qu'à la fin, justement, elle annonce le tome 2 de ses mémoires, parce qu'il faut bien dire que là, elle raconte surtout son enfance, son arrivée à Paris et les premiers succès. Et donc, alors, je ne sais pas si finalement il y a le tome 2, mais...
Je pense que pour une prochaine émission, Stan, il y a un petit peu de recherche à faire.
Eh bien, je vais...
un investissement.
Le suspense.
Ouais, je vais traîner devant ma boîte à livres pour voir s'il y a le tome 2. Écoutez, quand j'ai lu Sim, j'avais mis 6 mois à trouver le tome 2 dans ma fameuse boîte à livres. Donc, je ne désespère pas d'avoir le tome 2 des Mémoires de Linda de Souza.
Chers auditeurs, vous non plus ne désespérez pas. Vous êtes donc
et
sur...
Par contre, du coup, de lire ça m'a du coup donné envie d'écouter les chansons de Linda de Souza que je ne connaissais pas. Et voilà, je préfère ne pas en parler, mais c'est une expérience. D'une façon ou d'une autre, si vous êtes... aventureux, aventureuse, allez-y.
Tirola, oui, oui. On...
Bientôt, dans les trois premières.
Ben voilà, en tout cas,
si... Non, moi, je pense que ça vaut quand même une réinterprétation par Mathieu Hou en direct live, quoi.
Oh, ah oui. Non, je peux pas, oui. Parce que Tiroli, Tirola, c'est en portugais, et je parle pas portugais. J'aurais bien aimé, hein, mais là, je suis obligé de décliner l'offre. Je suis désolé.
On va trouver un autre titre.
Oui.
Hein? Stan, un titre de 3 minutes en français.
Eh bien, alors, la transition est tout trouvé. Vous êtes sur les 3 premières minutes. Vous pouvez nous joindre si vous voulez pour partager pendant ces 10 dernières minutes qui nous restent vos univers ou vos réactions. 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. L'émission est là pour ça, pour vous donner la parole. Et puis en attendant, plutôt que de m'écouter chanter un truc improvisé qui sera pas bon du tout, je vous propose d'écouter la merveilleuse voix d'Isa. Ah, on me fait non, non, non ah. À la régie. Ah, alors si, 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 Stéphane est quand même d'accord pour qu'on écoute la merveilleuse voix d'Isa. T'as failli,
ah, je suis désolé,
failli être censuré.
Non, Isabelle, je suis vraiment désolé. J'ai cru qu'on parlait d'un fichier enregistré, je comprenais plus.
Je suis en direct depuis 50 minutes, oui, Stéphane, mais tout à fait.
Non, mais bon, autant pour moi.
Bon, à part Stéphane qui n'a pas envie de t'entendre, nous, on a très envie de t'entendre
si,
nous
si,
lire
aussi.
Terre liquide.
Aux premières heures du matin, le 21 septembre 2007, je déversais quelques 200 ml de café sur mon téléphone portable à la sonnerie lancinante qui, secouée en profondeur par un numéro caché, m'invita si subitement à décoller de mon siège que je n'eus pas le temps de poser ma tasse. Déconcerté par cette interruption dans mon travail, il me fallut quelques secondes pour comprendre qui était en train de me parler. J'avais un policier à l'autre bout du fil. Et sans les circonlocutions qu'impose une salutation dans les formes, il m'avait informé que mes parents avaient quitté la vie dans un accident de voiture survenu la nuit précédente. Quitter la vie ? Demandai-je, bien que j'eusse aussitôt compris ce qu'il me disait. Tandis que je continuais de regarder fixement mon article sur les espaces vectoriels et que je voyais danser devant moi les produits scalaires complexes, l'autorité exécutive m'expliqua ce qui s'était passé. L'Audi rouge dont l'immatriculation avait permis d'identifier mes parents avait sûrement fait une sortie de route la veille, après la tombée de la nuit, avait glissé comme une murène effilée en passant au-dessus d'un tas de déblais à proximité de Siental. Ce qu'il y avait d'étrange, m'expliqua le policier, c'est que ni l'un ni l'autre ne présentait la moindre espèce de blessure ni de contusion. Il y avait certes sur la voiture un emplacement enfoncé, suite d'une confrontation avec une glissière de sécurité, mais beaucoup d'éléments plaidaient en faveur de l'idée que cela n'avait pas provoqué la mort. Après la collision, le véhicule avait dû monter le talus avec une infinie lenteur, tout en se retournant, flegmatique comme un insecte mourant, pour arriver en position dorsale et finalement franchir l'arête dans un mouvement râpeux et glisser vers le fond. Cette glissade, qu'une épaisse couche nuageuse avait rendu parfaitement invisible pour les autres conducteurs, avait fini, sans doute silencieusement, dans un chêne pédonculé, avait conclu le policier. J'étais assise dans mon lit en pantalon de pyjama et en soutien-gorge, tenant sur mes genoux l'ordinateur portable ouvert sur le texte de ma leçon inaugurale, et je me trouvais d'un seul coup au milieu d'une toile à la perspective défaillante. Les coins de mon appartement, ceux du parc devant ma fenêtre, chaque chaise, chaque étagère, tous étaient en mouvement pour s'encastrer les uns dans les autres. L'homme au téléphone continuait, impassible, pressé de mener à son terme sa mission de messager. Il était donc établi, dit-il, que ce n'était pas la collision qui avait provoqué la mort et que l'infrastructure routière, il souligna ce point, n'avait pas été la cause de cet accident tragique. Le rapport du service de médecine légale nous apporterait ici, d'ici quelques jours, une certitude définitive sur la cause de la mort, estima cet homme, et j'entendis à son ton, oscillant entre la diction d'un agent de circulation et celui d'un homme de la criminelle, que lui aussi était confronté pour la première fois à cette situation. Mais à ce moment-là, nous avions déjà tous deux mécaniquement pris congé et raccroché. Pendant une interminable matinée, je restais en pyjama, allongé tour à tour sur le flanc, sur le ventre et sur le dos. Depuis mon lit, je contemplais le rythme métronomique du feu tricolore et je finis par abandonner peu à peu l'idée qu'un bouleversement allait se produire en moi. Au lieu de cela, je fus prise d'une intuition qui se transforma lentement en certitude. J'étais manifestement intégré depuis longtemps à un calcul, un cérémonial établi avant même ma naissance et qui allait à présent se déclencher dans toute son ampleur. Un orgue de barbarie cosmique s'était mis en marche. Tous les rouleaux étaient en place, les dents s'engrenaient, tous les cylindres de la mécanique attendaient qu'on les appelle pour remplir le devoir de deuil.
Zéro.
j'allais évidemment organiser un enterrement.
C'était les trois premières minutes de Terre liquide de Raffaella Edelbauer. Merci Isa. Alors Stan, une réaction?
Ah ben moi j'étais emballé, je suis parti dans l'histoire. En fait, ce que j'aime bien là dans ce début, c'est que j'ai l'impression que ça peut partir absolument dans tous les sens, ou vers un récit du deuil, ou presque sur un truc de science-fiction paranormal avec cet accident où on ne sait pas trop où, quand, comment. Et j'aime bien ce mélange entre l'hyper-réalisme du on a le café, on a l'écran d'ordi, et en même temps une situation qui est tellement inattendue que ouais, ça m'a ouvert vraiment des portes vers un récit, ouais, de science-fiction. Je me disais, tiens, ça pourrait même partir vers des trucs de Stephen King, un peu comme ça. Donc ouais, j'aime bien ce genre de début où je sens que tout est possible dans la narration, même si à mon avis ça part pas du tout vers cette porte-là, mais en tout cas j'aime bien que ce soit possible, que mon imaginaire se le permette.
C'est marrant parce que moi je suis resté complètement extérieur à cette lecture, j'ai la réaction opposée, je m'en fous, dans le sens où en fait j'ai bloqué sur le style avec ces phrases beaucoup trop longues, avec beaucoup de propositions à l'intérieur, beaucoup trop d'adjectifs, où je trouve ça s'écoute parler à mort quoi, et ça veut, où il y a un truc où ça... veut faire de la littérature, je sais pas comment dire, mais ça veut faire des belles phrases et ça veut faire du style, et où du coup en fait moi je bloque sur la forme et j'arrive pas à accéder à autre chose quoi. Eric,
moi je suis partagé, j'aime beaucoup le style. Après on est dans une difficulté qui on est sur la froideur, donc soit la froideur t'en joue, mais en fait comme tu attaques un livre sur de la froideur, voilà, quelqu'un est mort et enfin t'es censé éprouver quelque chose et tu n'éprouves rien, mais peut-être que toi, lecteur, indirectement, du coup, t'éprouves rien aussi. Mais j'ai bien aimé le style, et moi, j'aime bien, j'ai noté chaîne pédonculée, hein, je vais le piquer, celui-là.
Facile à placer.
Ouais, tous les jours, je mettrai le mot pédonculé. Mais voilà, non, j'aime bien, après, effectivement, ça ouvre sur tellement de choses, à voir, quoi, à voir. Là encore, les trois premières minutes sont peut-être... une porte ouverte vers autre chose.
Non, mais ça pourrait être le sous-titre de cette émission, Eric. Glenn a une réaction.
Ça démarre par un policier, ça donne beaucoup de détails, c'est minutieux sur plein de petits trucs. Et en même temps, c'est absurde quand la personne raconte qu'elle a passé l'après-midi sur le dos, sur le ventre, sur le je ne sais plus dans quelle position, avec des superlatifs, un côté un peu transcendant dans les pensées. Comme vous, je pense que ça peut partir absolument dans tous les sens. Et je me dis, le côté absurde me fait penser qu'il va y avoir un truc qui bascule. Et je ne sais pas vers quoi, je ne l'ai pas lu. Ça me fait penser aux introductions de Kafka ou ce genre de choses. C'est où il y a une situation, mais il va y avoir un truc qui n'est pas normal et on va découvrir je ne sais pas quoi. C'est comme dans Le Procès, ça va devenir étouffant. On va détricoter un truc où c'est de pire en pire. Voilà.
Alors,
ah, vous êtes bon. Effectivement, ça part. Il faut être prêt à tout dans ce livre. Parce que ça bascule assez vite. En fait, la réaction de la narratrice est froide. Mais pour dire que dans la seconde d'après, en fait, elle va s'effondrer complètement. Parce que c'est une scientifique et qu'elle est assez coupée de ses émotions. Donc au départ, elle pense qu'elle va réagir. Mais en fait, comme elle est coupée de ses émotions, elle n'arrive pas à réagir. Et ça la rattrape. Malgré elle. Et en fait, cette histoire est un gros délire. Déjà, donc, elle va apprendre que ses parents avaient émis le souhait d'être enterrés dans leur village natal. Donc, elle va essayer de retrouver ce village natal. Et déjà, ce village n'existe pas dans aucune carte. Donc, c'est une quête vers ce village qu'elle finit par atteindre de façon rocambolesque en détruisant sa voiture. Et dans ce village, on est en Autriche, donc c'est un village typiquement autrichien où les gens vivent une Autriche folklorique, on va dire, donc complètement délirant. Donc on ne sait pas si là on bascule dans le conte, si on bascule dans une autre dimension historique ou pas. Et il se trouve qu'au milieu de ce village, il y a un énorme gouffre.
Ah là là.
Et là, on se dit, mais est-ce que c'est une allégorie? Et c'est toute la vie autour de ce gouffre et le déni collectif de l'histoire de l'Autriche. Et c'est un petit conte sur l'histoire autrichienne et ses dénis nazis.
C'est un peu don't look down finalement.
Et voilà, ou comment tu look down, mais pas vraiment.
Bon, tu m'as donné très envie de lire ce livre. Écoute, mal, Isa. Et bien, malheureusement, cette émission n'était pas féministe du tout, Isa, puisque tu as parlé en dernier et qu'en plus, je suis obligée de te couper la parole puisque la fin de l'émission arrive. Merci à tous, vous étiez sur les trois premières minutes. Vous avez entendu La valise en carton de Linda de Souza, lu par Stan. Vous avez entendu Dieu me déteste, que Isa vient de nous lire, de Hollis Shehamon. Vous avez entendu... que Glenn vous a lu. Terre liquide, qu'Isa vient de vous lire, de Raffaella Edelbauer. Et Au-delà de la pénétration, pour commencer cette émission, de Martin Page, par Eric. Merci à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et à la semaine prochaine.